Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Lire cet ouvrage, c'est lire l'histoire de notre France agricole depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, sa grandeur et ses vicissitudes, ses mutations, cette France agricole dont on a tant besoin, on le réalise enfin, celle pourtant qu'on a abîmée, bradée, abandonnée. À travers une famille, les Dantôme, c'est l'histoire de ces agriculteurs, travailleurs méconnus, oubliés, voire méprisés, cloués au pilori de l'argent, de l'apparence, voire de la frime citadine, ces hommes qui ont tenté de survivre en se trompant parfois, mais en travaillant toujours durement. Mais c'est surtout un roman passionnant qui émeut, qui interroge, oui, où se situer, qui dépeint magnifiquement la nature, qui met en scène deux personnages attachants à forte personnalité, pudiques et passionnés, qui représentent deux conceptions de l'agriculture, car les temps ont bien changé. Ce roman, intitulé Mohican, est édité chez Gallimard et j'ai le grand plaisir de recevoir son auteur, Éric Fotorino. Éric Fotorino, bonjour.
Bonjour.
Ah oui, je suis heureuse de vous accueillir. Ce n'est pas la première fois. Merci de votre fidélité. Oui, vous étiez venu pour Mon tour du monde et puis pour 17 ans. Voilà deux ouvrages pour lesquels nous avions discuté. Faut-il rappeler que vous avez été directeur du journal Le Monde, enseignant également, que vous êtes cofondateur de l'hebdomadaire Le 1 et du magazine trimestriel America, journaliste donc, romancier évidemment. Et c'est bien un ouvrage de journaliste, d'historien et d'écrivain. Pourquoi ce choix du thème de la paysannerie en France depuis la Seconde Guerre ? Car le sujet est toujours de grande actualité ?
Alors d'abord oui, probablement, mais pour moi il obéissait à des ressorts beaucoup plus anciens, c'est-à-dire que vous rappeliez que j'ai été journaliste au Monde et mon premier poste de journaliste, ça a duré 5 ans, ça a été de m'occuper des questions agricoles. En France, à l'étranger, et donc j'ai eu une sensibilité, je pense, particulière, et une connaissance qui m'est venue, évidemment, au gré de mes reportages, mais aussi des interviews, des rencontres avec différents responsables agricoles, mais aussi, bien sûr, des agriculteurs de terrain. Et donc c'est tout ça qui a fait qu'il y a 5 ans, hein, en 2015, 6 ans maintenant, j'ai voulu essayer de canaliser toutes ces connaissances, ces intuitions, ces impressions sur l'agriculture à travers non pas un essai d'économie ou un travail journalistique pur, mais à travers un roman.
Oui, et la connaissance des hommes aussi.
Oui, elle est très importante. L'agriculture, c'est vraiment quelque chose à hauteur d'homme, de femme et très humain, même si la mécanique et la chimie ont pris beaucoup de place.
Voilà. Alors... votre description de la nature, de sa beauté, qu'il s'agisse du monde végétal, du monde animal, à travers le regard de vos personnages, et c'est particulièrement émouvant et évocateur. Moi qui suis une citadine, je dirais hélas. Est-ce que vous êtes issue du milieu du monde rural ?
Alors non, je ne suis pas issue, ou alors comme tous les Français, c'est-à-dire que si on remonte 2-3 générations, on va trouver...
Oui, obligatoirement.
On va trouver des paysans. Mais donc mon grand-père maternel avait une ferme en Charente. Mais si vous voulez, non, je suis plus quelqu'un qui observe beaucoup la nature, qui a toujours observé, qui a toujours aussi évolué dans la nature. Mon goût pour le vélo a fait que j'ai sillonné beaucoup, beaucoup de routes en France.
J'allais vous demander si vous étiez horticulteur, ornithologue.
Alors, je ne suis pas tout ça, mais je suis plutôt un observateur, quelqu'un qui regarde, qui aime comprendre, donc qui se fait expliquer, qui se documente, qui lit. Et puis surtout, qui se laisse imprégner, qui se laisse gagner par cette nature.
Vous avez choisi le Jura. Il y a une raison particulière au Jura ?
Alors, il y avait plusieurs raisons. La première, c'était que j'avais envie d'un dépaysement par rapport à ce que sont mes connaissances, mes habitudes, mon propre enracinement qui est plutôt sur le littoral atlantique. J'avais envie d'un autre lieu où déployer l'imaginaire. Ça, c'est très important quand on écrit un roman, de ne pas avoir l'impression qu'on connaît tout, mais au contraire d'aller explorer des choses. La deuxième raison, c'était que je voulais parler d'une agriculture très particulière, qui est une agriculture de moyenne montagne, une agriculture difficultueuse où la terre n'est pas stérile, mais enfin, elle n'est pas non plus très généreuse. Et donc, il
avec
faut
un
travailler
relief
beaucoup.
Très contrasté aussi.
Voilà, avec des pentes, avec des reliefs. des combes, des reculés, des étangs. Et donc j'avais envie d'un paysage un peu accidenté et le Jura s'y prêtait bien. Et la dernière raison, mais celle-là on ne peut pas la dire sauf à dévoiler la fin du livre, c'est qu'il va se passer quelque chose qui ne peut se passer en France que dans le Jura. Voilà.
Alors le climat aussi, vous oubliez de parler du
bien
climat
sûr.
Qui est plutôt un climat âpre.
Oui, c'est très froid. Moi je voulais aussi que justement, que les conditions atmosphériques soient vraiment quasiment des personnages, ou que, en tout cas, les personnages baignent dans cette atmosphère. Et c'est vrai que qui dit Jura dit froid, dit des hivers très, très rigoureux. Et évidemment, le froid joue un rôle très important dans ce roman.
Alors, pensez-vous que les problèmes que vous abordez se retrouvent dans toutes les régions de France ? Je me
non,
suis posé la question,
oui.
Nous qui sommes en pays toulousain, je me posais
Bien
cette
sûr.
Question.
Si vous voulez, il y a des questions qui se posent à la plupart, la grande majorité des agriculteurs qui restent encore... à la terre, parce que, comme vous savez, depuis la guerre, mais ça s'est accéléré depuis les années 70, l'exode a été très important, l'exode rural, même si maintenant des gens reviennent dans les campagnes, mais c'est pas pour cultiver ou rarement. Donc, si vous voulez, il y a des questions qui se posent à la plupart des agriculteurs, qui sont des questions de sécurité des revenus, d'endettement. De course à l'équipement, aux engrais, aux produits chimiques, aux produits, à la technologie, aux gros tracteurs, aux grosses moissonneuses-batteuses, etc. Donc ça, c'est assez commun à quasiment tous les agriculteurs.
On en parlera. Hein,
mais... En revanche, les agriculteurs on pourrait presque dire plutôt les paysans qui sont devenus agriculteurs, dont je parle.
Oui, paysans
dans
n'est
le
pas
Jura,
péjoratif, le
pas
terme.
Pas du tout, c'est vraiment des gens qui sont vraiment liés, imprégnés du pays dans lequel ils travaillent. Ceux-là, ceux du Jura, ils correspondent à une catégorie évidemment plus particulière qui est celle des petits agriculteurs, même si Brindantôme a quand même réussi à avoir au bout des ans une cinquantaine d'hectares, mais enfin ce sont des gens qui n'ont pas les facilités de rendement qu'ont par exemple les agriculteurs de la Beauce ou de la Marne ou de la Champagne ou de la Limagne aussi, les terres noires très fertiles où on peut faire du 100 quintaux à l'hectare.
Alors, justement, vous avez parlé de cette famille. Il s'agit de trois générations de paysans avec trois dénominateurs communs. D'abord, l'habitude d'une vie rude, en fait, d'un travail physique important.
Oui.
Et je dirais pas forcément que physique, d'ailleurs, qui est lié aux saisons, au temps qu'il fait, etc. Donc, c'est vrai qu'on est toujours sur la brèche. Un amour viscéral pour leur terre, et ça, vous le faites bien sentir, on le voit et on le comprend. Et quand on connaît, dans les Pyrénées, il y a non pas des agriculteurs, mais des éleveurs.
Oui.
Et on voit combien c'est important pour eux. Et une grande fierté du travail accompli, de leur travail.
Oui, c'est vrai, parce que ce sont des gens, effectivement, comme vous le dites, très enracinés. Dans leur pays, pas au sens de la France, mais pays au sens justement de cet art de localité qu'est l'agriculture, comme disait Henri Mondras, le sociologue. Donc ce qui est vrai quelque part n'est pas nécessairement vrai 10 km ou 50 km plus loin, a fortiori à l'autre bout de la France. Mais eux, ils ont effectivement, la terre les a nourris, et ils ont donné toute leur force à cette terre, toute leur vie depuis des générations. Et je pense que pour eux, elle est constitutive de leur identité. C'est-à-dire que être paysan, pour eux, c'est effectivement avoir pris soin.
C'est un tout.
Voilà, avoir pris soin de cet univers qui est le leur. À un moment donné, il est dit dans le roman que le paradoxe, que c'était des hommes qui vivaient en plein air, mais qui vivaient comme dans un monde clos. Et c'est vrai, comme s'ils se sentaient parfois prisonniers là où ils sont. Et c'est une grande liberté, une grande servitude d'être paysan. Et c'est ces deux sentiments contradictoires que j'ai voulu essayer de montrer.
Vous parlez à un moment donné, et je n'avais jamais imaginé cela, justement, l'isolement qu'ils pouvaient éprouver. Alors, on peut parler là des trois personnages importants. Bien que Léon soit mort, c'était le grand-père, Brun le père et Mo le fils.
Oui.
Et vous parlez de cet isolement du fait de la neige.
C'est ça.
Les fermes étaient isolées. Hein,
oui,
c'était
bien sûr, vous avez raison, je pense que c'est la même chose qui a pu être vécue ici dans les Pyrénées.
Oui.
C'est-à-dire qu'effectivement, dans cette époque où il n'y avait pas d'Internet, où il n'y avait pas de communication autre que physique ou quasiment, même si le téléphone pouvait exister, mais malgré tout, l'équipement était plus faible. Donc, lorsque les intempéries ou le froid, la neige, le verglas, tout d'un coup figeaient le paysage et la vie, on se retrouvait quelquefois loin de tout le monde, même si le hameau d'après n'était pas si loin que ça. Mais il fallait vraiment des conditions extraordinaires, c'est-à-dire avoir besoin d'un médecin, pour que ces kilomètres-là soient franchis difficilement.
Il me semble que dans le Jura, c'est un habitat assez dispersé,
oui.
Finalement.
Oui,
cas dans les Pyrénées.
Oui, les fermes, les hameaux sont justement dans des combes, dans des reculés, des sortes dans des bas de collines, mais aussi à flanc de montagne. Donc effectivement, c'est en général quelques maisons ou un corps de ferme comme ça. C'est très dispersé et évidemment, ça ajoute au sentiment d'isolement.
Alors Brun, le chef de famille de cette ferme, est malade, il sait qu'il va mourir et il sait maintenant à quoi est due sa maladie et peut-être celle de sa mère et de sa femme. Car les femmes ne font pas long feu dans votre roman.
Non.
Elles sont effacées au sens propre et figuré. On a l'impression la vie était dure pour les hommes mais pour les femmes aussi.
D'une certaine manière, elles étaient sûrement plus difficiles parce que, comme vous le dites, elles ont un rôle un peu en arrière-plan, c'est-à-dire que c'est elles qui, évidemment, subviennent à beaucoup de besoins, ne serait-ce qu'alimentaires, elles sont contingentées à des tâches un peu vile, c'est-à-dire que c'est les femmes qui ont la basse-cour, par exemple. Et la basse-cour, ça, c'est bien ce que ça veut dire. Il y a les animaux nobles, et puis ceux qui sont à l'étable, et puis il y a la basse-cour, les poules, les volailles, etc. Et au-delà de ça, c'est vrai que j'ai voulu montrer comment le statut des femmes avait été longtemps ignoré. C'est-à-dire qu'on disait souvent sur une ferme, un homme plus une femme égale un exploitant, donc, et pas une exploitante. Donc, le statut d'exploitante agricole est venu très tard dans le droit français. Et donc ça, c'est à l'image aussi de cet univers, qui était un univers très masculin, très viril, et où les femmes du roman, et notamment Suzanne, qui est la femme de Brun, elle parle dans ce roman, elle parle même beaucoup, elle lui parle, elle est un peu la mémoire de ces soulaillants, qui sont le nom de la ferme, et puis elle est la conscience aussi de cette famille. Elle lui parle, et on comprend en fait qu'elle est morte 15 ans plus tôt, d'un cancer, et on peut se demander,
il n'y a pas de réponse,
mais on peut se demander si tous les épandages auxquels s'est livré Brun pendant des années, qui d'ailleurs vont lui coûter la vie. Cernaient la ferme et qui vont lui coûter la vie à lui aussi, puisqu'il souffre d'une leucémie qui va l'emporter. Eh bien, est-ce que ces femmes n'ont pas été victimes, elles aussi, de ces pratiques?
Oui, et hors antenne, nous parlions tout à l'heure, je vous parlais d'un livre que j'ai lu concernant justement la vie des femmes en Aveyron. Et j'étais étonnée parce que c'est un pays rude aussi, l'Aveyron. Mais alors là, il y avait des réunions de femmes qui se sont effectuées même juste avant la guerre, sous l'égide. Alors, j'ai honte, je ne me souviens plus, mais vous connaissez. C'était une des associations.
Jeunesses agricoles catholiques,
voilà, féminines.
Voilà, oui,
en plus, ils ajoutaient féminine.
Oui.
Et elles se réunissaient, ça leur a permis de faire un grand bond en avant, et relativement tôt.
Oui, je pense que, d'ailleurs, je crois que le monde agricole a été un monde, on parle souvent du monde ouvrier, mais enfin le monde agricole a été un monde qui s'est organisé très tôt, ne serait-ce que pour avoir une voix qui pèse et une voix commune face au pouvoir public. On a longtemps parlé de la co-gestion de la politique agricole en France entre le ministère, le gouvernement et les organisations syndicales principales. La FNSEA, et d'ailleurs c'est Christiane Lambert, une femme, qui est à la tête de ce syndicat. Et donc, si vous voulez, je pense que pour les femmes, ça a été un combat permanent, puisque elles travaillaient énormément, mais elles étaient un peu comme des bêtes de somme qui n'étaient pas reconnues. Si le lendemain, leur mari mourait, elles n'avaient rien. Et donc, je pense que c'était une des grandes injustices de cet univers qui, aujourd'hui, ont eu tendance à, quand même, heureusement d'ailleurs, à être colmatées.
Quand vous parlez d'unité, je m'interroge. C'est vraiment une parenthèse, douloureuse, parce qu'il y a eu beaucoup, il y a peut-être encore beaucoup de suicides de paysans.
Oui.
Et cette unité, justement, est-ce qu'il n'y a pas des liens qui se sont créés pour éviter ces drames qui sont quand même très importants?
Bien sûr, Il y a quelques années encore, c'était un suicide par jour dans le monde paysan. On en est à deux aujourd'hui.
Ouais.
Donc, les choses ne se sont pas arrangées. C'est vrai que c'est ça la difficulté, c'est l'entraide. C'est-à-dire que le métier d'agriculteur est un métier assez individuel, individualiste. Comme je disais, on est solitaire. Donc,
Souvent des taiseux, donc.
souvent des taiseux, souvent des gens. C'est contradictoire. Quelquefois, ils mettent en commun des moyens, notamment des moyens pour moissonner, pour faire les travaux des champs, ou pour payer un ouvrier agricole qui va faire les travaux dans différentes exploitations, etc. Mais il y a aussi cette espèce de j'allais dire d'égoïsme, qui est de dire bah, je vais
Ou
bouffer mon voisin,
d'amour-propre.
ou d'amour-propre, ou d'orgueil, effectivement mal placé, et qui peut conduire à des catastrophes. Donc quand certains ont investi dans des grands établissements d'élevage, par exemple des grandes structures d'élevage. On l'a vu dans le film d'Édouard Bergeon qui s'appelait Au nom de la terre avec Guillaume Canet, qui raconte l'histoire de son père qui a fini par se suicider. Volontairement ou pas, on se demande, parce qu'il a avalé en tout cas des
Oui.
produits phytosanitaires et il voulait peut-être pas se tuer, mais enfin il en est mort. On voit bien que il manque un appui social, c'est la
Oui.
mutualité sociale agricole, la MSA, qui suit toutes ces statistiques. Il y a des conseillers, il y a des psychologues, mais je pense qu'on est loin de ce qu'il faudrait, de cette prise en main réelle, psychologique de nombreux
Difficile
paysans.
pour un homme de dire, ben voilà, mon affaire, je sais plus la
C'est ça.
gérer. C'est
Voilà,
peut-être ça, hein.
exactement, parce qu'il y a, y a un moment donné. Quand répondant, obéissant d'une certaine manière, non pas aux injonctions, mais en tout cas aux conseils des banques, des conseillers agricoles, etc., pour investir, pour voir plus grand, pour être ambitieux, et quand tout d'un coup bah, les prix se retournent, les prix baissent, s'effondrent, et que en revanche
Les dettes s'accumulent.
les factures et les dettes grossissent, et ils se trouvent étranglés.
Oui. Revenons à cette famille, à Brun, le personnage
Oui.
central du roman. Comment pouvons-nous le décrire?
Ben, Brun, c'est d'abord une force de la nature. C'est quelqu'un qui est effectivement très solidement planté dans sa terre, comme son père, comme son grand-père, comme dans la nuit des temps,
Dans sa terre et dans sa
et dans
tête.
sa tête. Parce que c'est alors, on peut le décrire comme, je dirais, un paysan progressiste, moderniste. C'est quelqu'un de très ouvert, qui a voyagé, qui s'est cultivé. Qui a justement pratiqué l'entraide, qui a essayé d'apprivoiser, y compris la langue française, le vocabulaire. Il a fait du théâtre avec ses
Intelligent, oui,
amis. Et voilà,
intelligent et
il a une
avide
empathie.
d'avancer.
Voilà. Et lui, il est l'enfant quand Léonce, son père, à la Libération, reçoit les tracteurs américains du plan Marshall, les petits gris. Lui, il est enfant. Et donc, il voit cette modernité arriver. Et donc, dans les années 60, quand c'est son tour de prendre les choses en main, il va vraiment acquérir de nouvelles terres,
Aller de
acquérir du
l'avant, oui.
matériel, aller de l'avant et considérer que tout ce qu'il fait pour augmenter les rendements, pour augmenter la rentabilité de son entreprise agricole, son exploitation, bah, il fait bien. Il fait bien parce qu'il y a aussi quand même une
Oui.
dimension idéologique qu'il faut quand même rappeler. C'est que. Après la guerre, la guerre froide arrive, et la guerre froide, c'est le monde du communisme, qui est le monde des ouvriers, Stakhanov, l'homme de fer. Et finalement, l'aide américaine, elle est là aussi pour dire, bah, dans les pays de l'Est, les pays communistes, derrière le rideau de fer, on crève de faim. Nous, on va se relever et on va pas crever de faim, on va même vendre du blé, on aura une arme alimentaire et cette arme alimentaire, elle nous permettra aussi de lutter contre le communisme. Et donc je pense que là où il est, Brun, il a tout à fait intégré ça.
Oui.
D'une part, il dit, il y a des gens qui crèvent de faim en France et en Afrique et ailleurs, il faut les nourrir. Et deuxièmement, il faut montrer qu'on n'est pas des pays dont la dictature, la folie administrative a conduit aux famines et au pourrissement des récoltes, comme c'est le cas
Oui.
dans l'Union soviétique.
Et puis, ayant connu enfant la vie de Léonce, donc qui était quand même une vie dure et misérable, hein,
Bien sûr.
avec une certaine misère, il voulait en sortir de ça.
Ça, c'est très important. C'est l'idée qu'au-delà de la misère même, j'allais dire, matérielle, La dureté des conditions, on
le
dit
fait
le
d'être
froid et tout
écrasé.
Ça, c'est le sentiment d'être écrasé et d'être considéré comme des arriérés. Et donc il le dit à un moment donné, on voulait sortir de notre arriération, on était considéré comme des cutéreux. Et si vous voulez, pour moi, Mohican, c'est aussi un livre qui j'espère, en tout cas, résonne avec le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que, bon, on parle des gilets jaunes, des gens qui se sentent méprisés, mais, et qui créent du ressentiment, donc qui nourrissent du ressentiment qui souvent, d'ailleurs, va dans entre les mains des populistes. Mais ces paysans-là, justement, ils ne sont pas dans le fatalisme. Ils veulent se prendre en main, comme vous disiez, aller de l'avant, être modernes, ne pas apparaître comme des péquenauds. Et donc, pour justement avoir à proposer ou à projeter une image d'eux-mêmes à laquelle ils peuvent adhérer, dont ils peuvent être fiers.
Oui, parce que vous pensez qu'ils ont souffert d'une forme de mépris de
oui.
la part des citadins.
Ah ben c'est sûr. Si vous voulez, ça s'est beaucoup accéléré, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses.
Oui.
Ça a été les 30 malheureuses pour quand même le monde agricole, dans la mesure où on a assisté à un exode rural phénoménal. Il faut rappeler quand même qu'après la guerre, il y a plus de 60% de la population française qui est occupée à la terre. Aujourd'hui, on est à 2%. Donc ça a été vraiment une hémorragie sans nom. Dans les premières années, ceux qui ont quitté la ferme familiale pour aller s'employer comme fonctionnaires dans des bureaux ou comme chauffeurs de bus ou faire différents artisanats, y compris du bâtiment, au mois de juillet, ils reviennent toujours à la ferme pour faire les moissons, parce qu'ils ont encore ce lien. Mais après, ça s'est complètement distendu et ça a été terminé. Et bon, c'est la vieille histoire du rat des villes et des rats des champs. Le rat des villes méprise le rat des champs.
Oui.
Et je crois qu'il y a toujours eu ce mépris, ce regard de surplomb, pas très charitable, sur le paysan, dans la mesure où il était... Le dicton, c'était de dire le poncif, c'était, bon, on en sait toujours assez pour être paysan. Ce qui est vraiment faux, parce que les agriculteurs d'aujourd'hui ont un savoir, ont à la fois des savoirs anciens, ancestraux même, des savoirs
transmis.
Ils se tiennent
très au courant aussi.
Et en même temps, voilà, ils sont formés à l'économie, à la gestion, à l'agronomie, à la science des sols, à la science du climat et toutes les interactions des uns aux autres, et maintenant à l'écologie.
Oui, on en parlera aussi. Alors, Bonbrun, donc, est mourant et il a besoin de parler à son fils. Est-ce qu'il répond à l'injonction de l'au-delà de sa femme qui lui dit « De ton fils, fais ton frère ».
Oui, quand ton fils a grandi, fais-en ton frère.
Oui.
Alors, c'est un principe paysan d'ailleurs, hein, c'était un dicton paysan. Oui, je pense qu'effectivement, Brun, qui se sent peser de moins en moins sur cette terre, on le voit resserrer les crans de sa ceinture, alors que c'était vraiment un homme tellement costaud. Donc son fils voit qu'il décline, qu'il décolle. Et Brun, lui, se dit qu'il doit lui transmettre des choses avant de mourir, avant de partir. Et donc il y a des scènes. J'ai voulu aussi, bon, ceux qui ont lu d'autres de mes romans savent que la relation père-fils m'a souvent intéressé. Mais là, ça ne me concerne pas directement. Mais j'ai voulu, dans cette histoire aussi, que beaucoup de sentiments, d'émotions et de connaissances passent à travers le dialogue entre ce père et ce fils, qui n'est pas toujours un dialogue facile.
Il y a une idée de transmission.
Mais
donc.
Il y a une idée de transmission. Et cette transmission, c'est... En fait, Brun, lorsqu'il découvre qu'il est malade, il prend ce diagnostic non pas comme l'annonce de la mort qui devrait lui faire peur, il n'a pas spécialement peur de la mort, mais en revanche, il prend ce diagnostic comme une sanction, comme s'il avait eu faux, comme s'il s'était trompé toute sa vie.
Et donc, comme si Mo avait raison.
Alors,
ils
ont chacun leur raison, ça ne
oui,
veut pas dire
oui.
qu'ils ont tous les deux raison,
oui, oui.
mais effectivement, en tout cas, comme si Mo, aujourd'hui, avait plus raison que lui. Mais justement, ce qu'il veut lui expliquer, c'est que probablement que Mo, qui est un jeune paysan qui a 36 ans, qui a... Je dis nulle part dans le roman que c'est un paysan bio, mais ça ressemble à ça. Oui, c'est en tout cas quelqu'un qui est
un
proche
poète,
de la
cas.
Nature. Il est poète, il a plein de... Il a un regard sur la terre et sur les animaux qui n'est pas celui de Brun. Oui. Lui, il voit la beauté là où Brun a cherché le rendement toute sa vie. Oui. Donc, à partir de là, Brun essaie de lui montrer que...
Je vous interromps, pardon, Éric Fottorino, parce que s'il peut se permettre de voir la beauté, c'est peut-être parce que son père a essayé de tenir cette ferme, cette exploitation.
C'est ce que j'allais dire. C'est que, en fait, ce que je voulais aussi à travers Mohican, c'était ne pas faire d'anachronisme. Mmh. C'est-à-dire que ce qui sont nos valeurs d'aujourd'hui, qu'incarne Mo, ces valeurs n'auraient jamais eu droit de cité. Il y a même dans les années 70, je remonte même pas à la guerre, dans la mesure où cette agriculture n'aurait pas pu être au rendez-vous des objectifs qu'elle devait se fixer, qui étaient de nous nourrir.
Bien sûr,
elle n'aurait pas été assez productive, et par ailleurs, elle aurait été, si elle l'avait été, elle n'aurait été que pour des riches. Mmh. Donc effectivement, c'est deux logiques qui s'opposent, mais c'est aussi deux générations où la vérité d'hier n'est pas nécessairement la vérité d'aujourd'hui.
Tout à fait. Je vous propose une pause musicale. Alors, vous allez découvrir, d'après ce que vous m'avez dit, une chanson, c'est chanson du Jura, chanson sur notre département, voilà, que j'ai trouvé en cherchant un petit peu.
Je suis émerveillée de ces richesses uniques. Où lac, forêt, montagne de ce pays comptoir, dont nos âmes sensibles, leur force et puis leur joie. Ce n'est pas par hasard si Pasteur ou Hugo, un chercheur, un poète, la science et puis les mots, choisiront ce terroir mêlé de vin et d'eau, de naître en la comté pour sa plus grande gloire. Thank you.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Nous retrouvons Éric Fautorino qui a écrit un nouveau roman intitulé Mohican, paru aux éditions Gallimard. Et ce roman se situe dans le Jura, vous l'avez bien compris en écoutant cette chanson. Et nous retrouvons aussi cette famille d'agriculteurs. Ce sont là le père et le fils, puisque le fils est célibataire, le père est veuf maintenant. Brun, le père, meurt. Il a une leucémie et bien sûr, on comprend très vite que c'est certainement dû à tous les produits qu'il a utilisés abondamment et sans précaution, comme la plupart d'ailleurs des agriculteurs, mais des gens, parce qu'on n'était pas au courant. Évidemment, parfois, il y avait en petites lettres, hein, attention,
c'est ça,
etc.
Caractère 6, comme on l'appelle. Mais effectivement, c'était... Il épandait ses produits sur ses champs parce qu'il voulait garantir un rendement et garantir une récolte, donc un revenu. Je dis souvent que l'agriculture, c'est une usine sans toit. Et donc, elle est exposée aux intempéries. Il fait chaud, il fait trop chaud. Il fait froid, il fait trop froid. Il pleut pas assez, il pleut, mais il pleut trop, etc. Et donc, tous ces produits, il les a épandus. Et ça lui a réussi, puisque c'est ça qui a permis au Soulayan de se développer. Mais à un moment donné, l'excès d'épandage a fait que probablement il a contracté cette leucémie, comme dans la réalité beaucoup de paysans meurent de ça.
Alors, fatigué, souvent couché, ce qui n'était pas son style, il parle à son fils. Alors, ce sont tous les deux de pudiques. Mais on sent qu'il y a un amour et un respect, même s'il y a une incompréhension de part et d'autre.
C'est ça. C'est important parce que je ne voulais pas faire, évidemment, des personnages caricaturaux, ce qui n'aurait eu aucun sens. Donc je pense que Mo, le fils, entend les raisons de son père et au fur et à mesure que son père lui parle, rentre dans la logique, effectivement, productiviste qui a été la sienne.
Il comprend, sans
considérer qu'il doit faire la même chose. Quant au père, effectivement, il a bien en tête que la roue a tourné, que les temps ont changé et que ce qui a été longtemps, il a pu dire je produis donc je suis. L'identité était un tonnage au bout du champ. Et au fur et à mesure, on ne lui a plus demandé de produire, ou en tout cas, si on lui a demandé de produire, on lui a dit qu'il fallait protéger aussi.
Et là, il a en quelque sorte besoin de se justifier quand même.
Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs ce qui... éclairera ou pourra expliquer la dernière décision qu'il va prendre importante dans sa vie, qui va évidemment changer le cours des choses et métamorphoser, bouleverser les Soulayans, comme son fils le verra.
Voilà. Alors, évidemment, c'est un personnage qui est très intéressant, un fort caractère, qui ne laisse pas trop de choix à son fils.
Ouais.
Et là, vous mettez le doigt aussi sur quelque chose dans les fermes. On l'a vu que parfois, le pater familias régnait, mais même avec des enfants vraiment adultes, très adultes
oui,
même.
Oui. Il imposait sa loi et donc, voilà, ça, on ne discutait pas. Mais ce qu'il a fait, comme une soupape, quelques années plus tôt, il a donné à son fils Mo quelques champs du sommet des Soulayans, où là, Mo... peut les exploiter
à son gré,
voilà.
Oui. Alors, donc, on parlait de entre Brun et son fils Mo, on parlait d'une forme de respect, parce que quand même, il est évident que Mo travaille aussi, mais d'incompréhension, puis de mutisme. Mais quand même, ce qui surprend aussi, c'est que Brun est également un amoureux de la terre à sa manière.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, à un moment donné, ils vont vouloir aller couper un sapin pour ce qui sera le dernier Noël. Et il emmène Mo dans un bois et Mo lui dit « Mais ce bois n'est pas à nous. » Il dit « Mais si, il est à nous, je l'ai acheté. » Et il dit « Mais pourquoi tu l'as acheté ?» Il dit « Mais parce que je le trouvais beau. » Et donc, il est très étonné parce qu'il a toujours pensé que son père ne s'intéressait qu'à des champs qui auraient un rendement au bout.
Pragmatique.
Voilà.
Alors, si vous permettez, Éric Fautorino, je lis un extrait Brun est vivant, il respire à plein poumon l'air des hauteurs. Il grimpe jusqu'au promontoire des Soulayants pour voir le cré des neiges, le revers des montagnes qu'on appelle le Revermont. Il veut s'assurer que rien n'a disparu depuis la dernière fois. Il regarde loin, comme le fera son fils un jour. Il scrute les vertigineuses reculées, les rides des massifs où s'accrochent vaillamment les hauts herbages et plus bas la vigne. Son œil balaye les falaises, plonge profond dans la vallée encaissée que ponctue un cirque abrupt de calcaire où naît une rivière aussitôt avalée par un réseau souterrain de cavernes et de grottes. L'eau ressort plus loin, tenace, rien ne l'arrête. Il aperçoit sa courbe moirée dans le soleil. Elle entaille de nouvelles vallées, creuse de nouvelles failles, des flanquements, des combes étroites où le vert le dispute au gris, du calcaire et du grès. La reculée de Baume les messieurs, la cascade du Hérisson et son saut de 60 mètres, Brun ne se lasse pas de spectacle, chaque fois rendu aux hommes quand l'hiver a lâché prise. Il s'enracine par le regard.
Et oui.
C'est très beau, très beau. Mais... il y a maintes fois des descriptions. Il s'enracine par le regard. Mmh. Voilà. Il est heureux de son métier, il est heureux de sa réussite, mais hélas, ça ne va pas durer. Et il y a une politique agricole européenne, on ne va pas entrer dans les détails, parce que là, il y aurait beaucoup à dire, n'est-ce pas, qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus contraignante et inégalitaire. Alors, je vais dire contraignante, alors que le point fort du métier de paysan, c'était la liberté.
C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une profession qui a... c'est probablement en France et en Europe la profession la plus administrée. C'est-à-dire
maintenant,
que pour que avoir une, quand on a une exploitation agricole, il faut avoir vraiment une compétence et du temps qu'on n'a pas pour remplir des dossiers. Ça prend des heures et des jours, et d'une complexité et quelquefois d'une absurdité. On a l'impression que les fonctionnaires de Bruxelles qui pondent ces règlements le font avec une sorte de sadisme pour, passez-moi l'expression, pour... emmerder les agriculteurs.
Oui. Et les décourager peut-être.
Et les décourager. Et c'est vrai que...
Même encore,
bien sûr. Oui, bien sûr. C'est... Vous voyez, si vous voulez monter une installation de méthane pour le gaz animal, la méthanisation, on appelle ça la méthanisation.
C'est nouveau, ça.
Eh bien, c'est une énergie, une bioénergie. En Allemagne, ça prend quelques mois. En France, ça peut prendre jusqu'à 5 ans pour obtenir les autorisations. Donc, vous voyez bien qu'il y a toujours cette idée que derrière l'agriculteur, on veut absolument mettre un fonctionnaire qui va un peu vétilleux, qui va lui imposer des normes est souvent absurde. Et ça, c'est des pertes de temps, d'énergie, et ça mène au découragement.
Et les prix ont baissé énormément.
Alors là, récemment, ils ont plutôt monté. Oui. Mais si vous voulez, si on prend sur la longue durée, évidemment, le prix relatif de l'alimentation au regard de tous les autres biens de consommation a diminué. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu cette injonction de la société, injonction des citadins, de dire on veut manger des bonnes choses, mais on veut que ce soit pas cher. Donc évidemment, quand...
Et les grandes surfaces peut-être ont œuvré
aussi,
dans ce sens.
Aussi, bien sûr, que les grandes surfaces ont écrasé les prix, comme on dit. Bon. Et donc, si vous voulez, ces injonctions contradictoires, comme Brun le dit à un moment donné, le porc, le lait coûte moins cher que la sueur pour les produire. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que la valeur même de l'agriculture est foulée aux pieds. Et ça entraîne toutes ces faillites et aussi ces faillites personnelles, humaines, sans parler des questions de santé.
Oui, puis un sentiment d'inégalité également, parce que ce que j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, c'est que finalement, les aides sont d'autant plus importantes que les exploitations sont importantes.
C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau dire qu'il faut aller vers le bio, vers l'écologie, etc. Aujourd'hui, les aides vont à l'agriculture classique productiviste. Plus vous produisez, plus vous êtes aidé. Donc on voit bien que dans certaines régions, la problématique n'est pas de produire plus, elle est de produire mieux, elle est de produire dans un respect plus grand de l'environnement. Et ça, ces pratiques-là ne sont pas encouragées.
Bien sûr. Alors, Brun, sachant sa fin prochaine, accepte quelque chose d'assez étonnant, l'installation d'éoliennes. On se pose la question, pourquoi ?
Ben, c'est-à-dire que d'abord, il y a un promoteur qui fait son siège depuis quelque temps pour lui proposer ça, et jusque-là, il a toujours refusé.
très fort, le promoteur.
Oui. Il s'appelle Rieu et on va voir qu'il va venir rendre visite à Brun et il va finir par le convaincre. Ben, Brun, il y a deux raisons pour lesquelles il cède. Parce que ce n'est pas vraiment une décision, c'est plus une abdication. Ou une sorte de renoncement. Et alors, d'une part, c'est parce qu'il sait que la situation économique de sa ferme est mauvaise.
Il a peur de la faillite pour son fils.
Ça, c'est la première chose. Et le parc d'éoliennes qu'il pourrait mettre en place sur son exploitation pourrait lui rapporter 40, voire 50 000 euros, en tout cas la première année. Donc, ce n'est pas négligeable. Et la deuxième raison, c'est que comme il intériorise ce qu'il n'a jamais voulu faire, il intériorise le fait qu'il est peut-être un agriculteur pollueur. Il se souvient qu'un jour, il y a eu un panneau devant chez lui avec écrit « agriculteur ». Eh bien, c'est comme s'il voulait s'acheter une bonne conscience, non pas le paradis, mais une bonne conscience, et se dire « je vais investir dans ces
énergies propres,
dans ces énergies propres qui ne dégagent pas de gaz carbonique ». Et donc, en plus, le promoteur lui dit, vous savez, on parle de parc, de troupeaux d'éoliennes, de fermes d'éoliennes, donc on reste dans un vocabulaire, une sémantique agricole. Bref, il va accepter. Et c'est là, effectivement, que bascule le roman, dans la mesure où son fils Mo, qui pourtant est plutôt écologiste, voit surgir la première éolienne, puis la deuxième, comme de grandes menaces et comme des totems insupportables d'une fausse modernité. Et
alors, voilà. Je n'aurai sans doute pas le temps de lire un passage qui concerne Mo. C'est une nouvelle génération, plus informée, moins traditionnaliste, un paysan, mais un poète aussi, qui est curieux, lui, comme son père, cultivé, il y est virgine, non, il
oui,
me semble.
Oui.
Il connaît toute la végétation qu'on trouve chez lui. Les oiseaux, les mammifères, les insectes, il est respectueux de la nature et veut la préserver. Respectueux de la nature. Et peut-être que, dans le fond, la génération précédente n'était pas respectueuse de la nature.
En tout cas, il n'avait pas cette conscience aussi aiguë que nous faisons partie de la nature et que la nature fait partie de nous. Et que si on ne la respecte pas, elle peut un jour nous mettre dehors. Et on le voit avec les grands feux, les grandes inondations, toutes ces intempéries qu'on connaît liées à la main de l'homme et à son action. Et donc effectivement, Mo, lui, il vit, il a le sentiment que son exploitation, sa ferme, n'est pas d'abord un lieu d'économie, de subsistance, c'est un lieu de vie. Et lui, il veut y vivre longtemps et pour ça, il veut continuer à créer les conditions de vie sur ce territoire.
Alors, il y a des passages assez drôles, puisque à un moment donné, lui, il est favorable à la mise en jachère. Et Brun est outré.
Oui.
C'est de la perdition, un manque à gagner. On ne se nourrit pas avec des jachères. Hein.
Voilà, et puis il lui dit, quand Mo dit « il faut que la terre se repose », Brun lui dit « mais est-ce que je me repose, moi ?»
Oui.
Donc, effectivement, on voit bien l'incompréhension entre des pratiques. Par exemple, Mo ne déchaume plus la terre. Il ne laboure plus.
Ce que l'on fait, on encourage maintenant.
C'est ça, alors que Brun, lui, il a même été un champion de labour. Il a gagné des compétitions de labour. Donc, entre ceux qui labouraient la terre profondément, l'éventraient, et puis Mo, qui, très respectueux, trace simplement des sillons de surface et laisse les adventices prospérer, évidemment, c'est pas le même monde, c'est deux mondes.
Alors... j'ai découvert, enfin, j'en avais vaguement entendu parler, mais il y a une charte du lac Herrier. Ça, c'est très intéressant. Et c'est donc Mo qui découvre ça et ça lui donne des idées.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il entend ça à la radio, que finalement, grâce à des défenseurs humains, évidemment, mais que des espaces naturels comme le lac Herrier, mais c'est aussi en Nouvelle-Zélande des fleuves, des montagnes, qui ont été comme ça protégés, qu'ils deviennent non plus des objets, mais des sujets de droit. C'est-à-dire qu'ils peuvent agir en justice, par évidemment l'intermédiaire d'humains, ils peuvent agir en justice pour que soient respectés leurs droits. Et ça, pour lui, quand il entend ça à la radio, évidemment, ça fait tout de suite tilt, parce qu'il se dit « mais pourquoi mon exploitation ne deviendrait-elle pas un sujet de droit et donc pourrait se retourner contre ces éoliennes qui viennent d'une certaine manière, vous savez, comme on greffe quelquefois des organes extérieurs et puis que le corps les rejette, il y a des phénomènes de rejet, eh bien pourquoi il n'y aurait pas un rejet de ces éoliennes par la Terre ?
Alors, je crois que j'aurai un peu le temps pour lire un extrait qui concerne Meaux. Il contemple les champs, devine les chemins et leurs ramifications secrètes, les prairies aux herbes folles, les pelouses d'altitude, les prés à foin, et en contrebas, près des cours d'eau, les terres inondables, les pacages, les buissons. Il désigne chaque parcelle par son nom, comme il le fait des bêtes, la sente des laveuses, le cré des neiges, le chant Hopi, qu'il appelait enfant le chant Hopi, H-O-P-I, à cause de Suzanne et des histoires d'Indiens qu'elle lui racontait. La citerne des grands champs, le gré au lièvre, la tourbière qui éponge trop d'eau et la restitue par temps sec, un cadeau de la nature dont Meaux connaît chaque habitant, la grenouille rousse, le lézard à sang froid, une profusion de papillons, comme des fleurs qui volent, et aussi la bruyère rose, pareille au ciel de l'aube. Plus loin, la pièce de vigne, qui leur donne un vin pas fameux, mais c'est leur vin, qui leur donne de l'inquiétude aussi quand les orages s'aimantent aux montagnes et menacent les jeunes grains de leur mitraille. Les borderies où ils cultivent l'authentique au printemps, avec pour alliés le bourdon et la coccinelle, des terres qui se gardent bien de labourer. Ils sèment à la volée, à la manière des premiers hommes, sélectionnent ces graines, observent les cycles naturels, puis viennent les parcelles de l'Est, le champ des oiselles, la petite et la grande couture, où ils ont expérimenté les fèves il y a 3 ans, et le lac, comme une étoffe moirée qui brille au milieu des pâturages. Rien ne vient couper la vue. L'automne a des relents d'été indien. Meaux distingue les bois, les fourrés, les façades aux chaux blanches, de la Tuilerie et les vergers. Il voit la peine de son père, la peine de son grand-père, la peine de tous les dantômes qui se sont penchés sur ces étendues bosselées, d'eau creusée, nuques cramoisies de soleil, vêtements alourdis de pluie et de neige, bras jetés dans l'engrenage des travaux et des jours. Ils revoient leurs visages détruits, raniment leur regard éteint, la vie qui résiste avec sa lenteur accoutumée, sa patience à vivre. Ils goûtent la transparence de l'air, les reflets du couchant sur les feuillages mordorés, ils frissonnent. De très belles pages.
Merci.
Très belle page. Et oui. Et les éoliennes vont arriver puisque le père, sans en parler à son fils, finalement, va signer un contrat. Il n'aura pas tout lu. Et là, ça, évidemment, on va avoir affaire à des travaux pharaoniques avec des dégâts énormes.
Ben oui, parce qu'un chantier d'éoliennes, on ne se rend pas compte parce qu'on les voit au bord des autoroutes, on a l'impression que voilà, on les a posées là.
Elles
et
sont
c'est
posées,
fini.
Ça, c'est tout.
Mais en fait, un chantier d'éoliennes dans une exploitation où quelquefois même la moissonneuse ne peut pas venir, il faut faucher à la main, ça change tout. C'est-à-dire que les chemins ne sont plus des chemins, on en fait des routes. Donc on arrase les haies et puis on va éventrer la terre pour passer des câbles. On va injecter 8 à 900 tonnes de béton liquide dans le sol pour justement que l'éolienne, après le mât d'éolienne, puisse tenir debout. Donc si vous voulez, toute cette ferraille, tout ce béton, tout ce chantier qui est également un chantier de guerre avec des camions toupies, avec des convois exceptionnels pour porter, apporter sur pièce, sur pied et sur pièce les 3 tronçons d'un mât d'éolienne, puis après les rotors, la nacelle et puis évidemment les pales. Tout ça défigure, transfigure, mais défigure les sous-layons et ça donne l'idée que ça ne sera plus jamais comme avant.
Voilà, et on sait que les éoliennes sont dangereuses pour beaucoup d'oiseaux.
Notamment les migrateurs et les chauves-souris, oui.
Oui, voilà, particulièrement. Pour les abeilles, on se pose la question, j'en ai parlé à quelqu'un qui disait qu'il pensait que le bruit les incommodait.
Bah, en tout cas, il est possible. Moi, je décris une scène parce que, encore une fois, moi, c'est pas un livre contre les éoliennes ou quoi que ce soit. C'est un livre qui montre que des chantiers d'éoliennes, dans certaines circonstances, peuvent causer des dégâts collatéraux. Et là, on voit une ruche.
Vous voulez dire qu'il ne faut pas s'engouffrer dans des techniques nouvelles sans précaution.
Oui, c'est-à-dire que probablement que les éoliennes sont peut-être vertueuses dans certains endroits, mais pas partout. Mmh. Et là, l'endroit que je décris, effectivement, il n'en aurait pas fallu. Et donc, on voit effectivement tout un essaim d'abeilles perdues et qui n'arrivent plus à retrouver le chemin de la ruche. Et la question, c'est de savoir, est-ce que c'est des choses qui ont été épandues qui leur ont fait perdre la mémoire et le sens de l'orientation. Est-ce que c'est un bruit, un infrason qu'elles entendent et qui brouille leurs propres ondes? Après, on ne sait pas.
On peut se poser la question également pour le bétail.
Bien sûr.
Puisqu'il y a eu, il y a des articles d'ailleurs là-dessus.
Oui.
Voilà, alors évidemment, on ne va pas parler, on ne va pas du tout parler de la fin de cet ouvrage.
La fin est un peu le suspense, mais ce que je pourrais dire quand même sur la fin, c'est que c'est parce que j'ai écrit la fin que c'est un livre d'espérance pour moi. C'est pas, Mohican n'est pas le dernier des Mohicans, il a vocation. Mais
le dernier
des
Mohicans, c'est-à-dire, oui, parce que évidemment vous faites allusion à Fenimore Cooper,
oui,
mais qui se bat, oui, qui
voilà.
Tient bon, en
il
fait.
Il tient bon, et effectivement avec des moyens qui ne seront pas nécessairement les plus acceptables par le corps social. Mais en même temps, il a une révolte. Mais cette révolte, elle n'est pas pour détruire, elle est une révolte pour continuer et pour avoir montré aux autres que finalement, préserver notre identité, c'est aussi préserver notre territoire.
Oui. Voilà, et cette idée de continuité, de passation, de transmission.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Un grand merci, Eric Fotorino.
Merci à vous, Monique.
Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de Mohican, votre nouvel ouvrage paru aux éditions Gallimard. Au revoir.
Au revoir, merci.